VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui. Édition du 16 octobre 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoulia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Au moins 276 personnes ont été tuées pendant le week-end dans un attentat en Somalie.
En République démocratique du Congo, découverte hier par les autorités des corps de 26 personnes tuées le 7 octobre dernier dans l'Est par les ADF.
Un second tour opposera au Libéria George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai.
Hommage à Thomas Sankara au Burkina 30 ans après sa mort dans un coup d'État.
L'écrivain malien Yambo Wologem est mort dimanche à Sévaré au Mali à l'âge de 77 ans.
Et ne manquez pas notre page sport avec Élisée Ongpatine pour l'instant, le journal.
Colère à Mogadiscio après l'attentat le plus meurtrier que la Somalie ait connu ce week-end. Le dernier bilan fait état d'au moins 276 morts et de 300 blessés dans cet attentat au camion piégé dans le centre de Mogadiscio. Le point avec Michel Joseph.
Des centaines de personnes sont descendues hier dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère après l'attentat au camion qui a frappé le centre de Mogadiscio. Les manifestants ont scandé des slogans anti-violence et brandi des portraits du président et du premier ministre. Certains portaient des tresses de couleur rouge et blanche dans les cheveux en signe de deuil. Les habitants de Mogadiscio ont partagé sur Facebook des photos et noms de personnes disparues et certains ont publié des images parfois horribles de gens tués pour informer leurs familles de leur mort. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de reconnaître leurs proches, nombre des morts étant brûlés au point de ne pas être reconnaissables ou déchiquetés par l'explosion. Un responsable de la police, Ibrahim Mohamed, a reconnu qu'il était très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les cadavres ont été emmenés vers différents centres médicaux et certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches pour être enterrés. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a visité hier l'hôpital Erdogan où il a donné son sang pour les victimes. Le président accuse les Chebabs d'être derrière cette attaque qui, selon lui, visait délibérément des civils innocents et non pas des responsables gouvernementaux somaliens.
Paris, Londres, Washington, Ankara et l'Union africaine ont assuré dimanche la Somalie de leur soutien après ce puissant attentat au camion piégé. Soutien avec la Somalie, soutien à l'Union africaine contre les groupes terroristes islamistes. La France se tient à vos côtés, écrit le président français Emmanuel Macron sur Twitter. Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, condamne fortement le lâche attentat de Mogadiscio. Dans un communiqué, les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts l'attaque terroriste à Mogadiscio le 14 octobre, selon un communiqué du département d'État qui a parlé de centaines de blessés et de morts.
Les combattants nigériens du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour se repentir. Le gouverneur de la région de Diffa a lancé cet ultimatum lors de la visite d'un camp d'accueil de repentis nigériens de Boko Haram. Au-delà du 31 décembre 2017, celui qui ne vient pas doit trouver un autre statut. Il doit se trouver un autre statut. Il ne va plus s'appeler repenti, a déclaré Mamadou Lawali Dandano devant les 160 pensionnaires du camp, tous des combattants nigériens de Boko Haram qui ont déposé les armes depuis décembre 2016.
Les autorités congolaises ont découvert dimanche 26 corps de personnes tuées, selon l'armée congolaise, le 7 octobre dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Ce sont les corps des personnes qui sont tombées dans l'embuscade des ADF la semaine dernière, a expliqué un porte-parole de l'armée dans le territoire de Beni, l'une des divisions de la province du Nord Kivu. Les ADF sont accusés d'avoir attaqué le 7 octobre des taxis-motos.
Le président sud-africain Jacob Zuma exprime son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo après une rencontre avec son homologue congolais Joseph Kabila à Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence congolaise alors que l'opposition en RDC accuse le président Kabila de vouloir se cramponner au pouvoir. Eric Manerakiza.
Un communiqué de la présidence congolaise indique que les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en faveur des peuples de la région. L'opposition congolaise avait déjà sévèrement critiqué la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, qui avait indiqué en août dernier qu'il serait impossible d'organiser des élections en RDC cette année. L'opposant Félix Tshisekedi a qualifié la semaine dernière de forfaiture l'annonce du président de la commission électorale, Corneille Nangaa, selon laquelle il n'y aurait pas d'élection avant 2019 pour la succession de M. Kabila. Le second mandat de M. Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, mais l'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'installation d'un président élu. Un accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016 prévoyait des élections plus tard en décembre 2017. Une réunion d'évaluation du processus électoral se tient à Kinshasa jusqu'à mercredi et les autorités avaient promis il y a quelques semaines de publier un calendrier électoral réaliste.
Il y aura bel et bien un second tour au Libéria entre George Weah, sénateur et légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai. Selon la commission électorale, aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue lors du scrutin du 10 octobre dernier. Abdourahmane Dia.
Cinq jours après le scrutin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la commission électorale conclut qu'un second tour sera nécessaire après le dépouillement de 95% des bureaux de vote. Et d'après ces résultats, George Weah arrive en tête avec quelque 572 000 voix, soit 39% des suffrages, nettement devant Joseph Boakai, qui lui a 427 000 voix, soit 29% des suffrages. Il n'y a plus de doute à présent sur la nécessité d'un second tour, a donc déclaré le porte-parole de la Commission électorale nationale, Henry Flomo, lors de l'annonce de ses résultats partiels. Le taux de participation est de 74,5%. Les 18 autres candidats sont largement distancés par les deux favoris. Selon la Constitution, le second tour est organisé le deuxième mardi qui suit l'annonce du résultat final. La présidente sortante, prix Nobel de la paix 2011, Ellen Johnson Sirleaf, a estimé le jour du scrutin que le Libéria était prêt pour la transition.
30 ans après la mort de Thomas Sankara, les Burkinabés rendent hommage à celui que beaucoup considèrent comme le père de la révolution au Burkina Faso. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Ouagadougou pour réclamer vérité et justice pour Thomas Sankara. Nous retrouvons Eric Manirakiza.
Des manifestants majoritairement vêtus de t-shirts à l'effigie de Sankara ont scandé « Vérité et justice pour Thomas Sankara » et « Justice pour ses compagnons » en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Honte à la justice pourrie et aux magistrats corrompus » et « 30 ans d'impunité, c'est trop ». À l'appel du Comité international mémorial Thomas Sankara, les manifestants s'étaient rassemblés au Conseil de l'Entente, siège de la Révolution burkinabé, où Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons. Ils ont également réclamé l'ouverture d'une enquête judiciaire en France dans l'affaire Sankara pour, je cite, « situer les responsabilités de la partie française dans cet assassinat planifié et l'accès à toutes les archives portant sur Sankara ». Au tribunal militaire, les manifestants ont remis leur mémorandum au directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons avaient été assassinés lors d'un coup d'État qui avait alors porté au pouvoir Blaise Compaoré. Les corps présumés de Sankara et de ses compagnons tués avec lui ont été exhumés en 2015 pour une expertise ADN afin de déterminer l'identité des victimes et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Malgré des analyses en France puis en Espagne, il n'a pas été possible de confirmer les identités.
L'écrivain malien Yambo Wologem est mort dimanche à Sévaré, au Mali, à l'âge de 77 ans. Yambo Wologem était le premier Africain à avoir obtenu le prix Renaudot. Il avait été récompensé pour son roman « Le devoir de violence » publié au Seuil en 1968.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes ont progressé dans la nuit de dimanche à lundi dans la province de Kirkuk, affirmant avoir repris des routes et des infrastructures au Peshmerga kurde. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le commandement conjoint des opérations, qui regroupe l'ensemble des forces irakiennes engagées dans les opérations, a fait état de la progression dans l'opération Restauration de la sécurité à Kirkuk, que se disputent le gouvernement central irakien et la région autonome du Kurdistan.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré hier que Téhéran respecte techniquement l'accord sur le nucléaire iranien, mais estime-t-il, le président Donald Trump veut que le Congrès américain adopte une stratégie plus complexe pour résoudre ce que M. Trump considère comme les failles de cet accord. M. Tillerson commentait hier la décision du président américain de ne pas certifier le respect de cet accord, laissant ainsi au Congrès la possibilité de réimposer ou non les sanctions économiques en place avant la conclusion de l'accord entre l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. M. Tillerson a aussi parlé des activités déstabilisatrices de l'Iran au Moyen-Orient, ainsi que de ses programmes de missiles balistiques.
Au moins 5 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau transportant des Rohingyas fuyant la Birmanie vers le Bangladesh, ont annoncé aujourd'hui des gardes-côtes du Bangladesh. Le bateau transportait environ 50 personnes quand il a coulé dans l'estuaire de la rivière Naaf. 5 corps ont été retrouvés, dont 4 enfants et 21 personnes ont survécu, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Ariful Islam.
Voilà, c'est tout pour ce journal. À présent, les sports avec Élisée Oumpati. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, le Maroc désigné pays hôte du prochain CHAN 2018.
Oui, le comité d'urgence de l'instance réunie samedi à Lagos au Nigeria a désigné le Maroc comme nouveau pays hôte de cette compétition. Le Royaume s'était porté candidat à la suite du retrait de l'organisation de cette compétition au Kenya, on se rappelle, le 23 septembre dernier à Accra, au Ghana. La CAF a donc officialisé cette information hier dimanche. Le pays des Lions de l'Atlas a été préféré à l'Éthiopie et à la Guinée équatoriale qui postulaient également. Et comme le Maroc avait déjà gagné son billet sur le terrain face à l'Égypte, cette désignation fait également les affaires des pharaons qui seront repêchés et remplaceront donc le Kenya parmi les 16 participants. La compétition, qui aura lieu du 12 janvier au 4 février 2018, va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leur pays respectif.
Sur le terrain cette fois, Adouana Stars a remporté le championnat du Ghana.
Le club de Douma Ahenkro a remporté son 2e titre de champion du Ghana après celui de 2010 à l'issue de la 29e et avant-dernière journée du championnat disputée hier dimanche. Edouana Stars, vainqueur d'Elmina Sharks 2-1, profite de la défaite de Wafa sur le même score face à Ebusua Dwarfs pour prendre 7 points d'avance à une journée de la fin de ce championnat. A noter que les deux grands du pays, Assofuk et Asante Kotoko, terminent respectivement 3e et 4e.
Fin de saison au Ghana et début en revanche en Côte d'Ivoire de la première journée de la Ligue 1.
Et fortune diverse pour l'Africa Sport et la SEC. Les Aiglons, vainqueurs de la Coupe Nationale 2017, ont réussi leur expédition à San Pedro en battant 1-0 le FC San Pedro. Par contre, les Mimos, champions en titre, ont perdu sur le même score devant la FAD. Bien avant, Bouaké FC, le promu, a eu raison du stade d'Abidjan sur le score de 1-0. Notons le nul 1-1 entre SOA et l'Aïe Standard.
En attendant le démarrage au Togo, il était question de Super Coupe.
L'AS Togoport est sorti vainqueur devant Semasi de Sokodé à l'issue de la séance des tirs au but 4-3, 2-2 après le temps réglementaire. Champion lors de la saison écoulée, le club de Lomé remporte ainsi son premier trophée cette saison en attendant la première journée du championnat prévue le week-end prochain au Burkina Faso. C'est l'étoile filante de Ouagadougou qui enlève la Supercoupe devant le Rai Club de Kadiogo, 0-0 après le temps réglementaire et 5 tirs au but contre 3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une coalition d'ONG internationales demande au secrétaire général de l'ONU de s'engager à enrayer les violences contre les civils en République centrafricaine. Antonio Guterres a reçu les représentants de ces ONG la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York en amont de sa visite à Bangui prévue du 24 au 27 octobre prochain. Abdelaziz Sali, coordonnateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains, faisait partie de cette délégation qui a rencontré le patron de l'ONU. Jacques Aristide s'est entretenu avec lui à New York. Écoutons Abdelaziz Sali.
Au cours de cette rencontre, nous avons eu à discuter des questions sécuritaires en République centrafricaine. Donc, vous savez qu'il y a une vue sécuritaire et il y a également la nécessité d'augmenter l'effectif de la MINUSCA et également d'améliorer la qualité des soldats de la paix pour répondre justement au problème de crédibilité que connaît aujourd'hui la mission onusienne en République centrafricaine.
Une rencontre, il faut le dire, en amont de sa visite à Bangui à la fin de ce mois.
Justement, cela s'inscrit également dans le cadre de cet préparatif parce que vous le savez, il va visiter un pays où la MINUSCA traverse une crise de légitimité vis-à-vis de la société civile, de la population en général.
Quel est l'état des lieux que vous faites de la situation dans votre pays?
En préparatif de notre visite ici, nous avons eu à rencontrer des différents représentants de membres de la société civile autour duquel on a échangé, on a recueilli leurs opinions. Mais vous savez que la situation à Bangassou, à Bokaranga et très récemment à Kembe, vraiment, c'est une situation qui trouble beaucoup la population et les gens s'interrogent vraiment sur l'efficacité de la MINUSCA parce que ce problème de communication qui existe entre la MINUSCA et la société civile face à tout ce qui arrive à la population sans protection, je pense que ça, c'est des questions sur lesquelles la MINUSCA, la communauté internationale, doit s'appuyer pour répondre.
Quelles pourraient être les solutions à cette crise d'après vous ?
Justement, du point de vue du soutien de la communauté internationale, en urgence, il y a un besoin d'urgence d'augmenter l'effectif de cette mission et également d'améliorer la qualité des soldats de la paix pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires dans ce pays.
En tant que jeune, qu'avez-vous suggéré au secrétaire général de l'ONU pour aider à ramener la paix dans votre pays ?
Ici, ça, c'est beaucoup plus des questions qui relève de renforcement des capacités de la jeunesse, parce qu'on a des instruments du Conseil de sécurité, la résolution 2250 du Conseil de sécurité, qui est un instrument que vraiment la communauté internationale peut utiliser pour résoudre durablement le problème de la paix dans notre pays. La paix ne se décrète pas, elle se construit et elle se fait avec les générations futures. Donc il faut travailler sur l'éducation et aussi renforcer la justice. Parce que c'est ça, il faut lutter contre l'impunité, la corruption. Et ça, c'est avec la jeunesse que ça doit se faire.
Abdelaziz Sali, coordonnateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains, interrogé dans le studio de la Voix de l'Amérique à New York.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Cameroun, la candidature à la présidentielle de 2018 annoncée le 8 octobre dernier par l'avocat international anglophone Akere Mouna suscite beaucoup de commentaires, notamment ses positions en faveur du fédéralisme. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Akere Mouna, candidat à l'élection présidentielle de 2018, l'annonce n'a laissé personne indifférent à Yaoundé. Surtout que cette intention de candidature provient d'un Camerounais anglophone dans un contexte de troubles dans les deux zones anglophones du Cameroun.
C'est la toute première véritable candidature. C'est quand même le fils de Tandé Mouna qui a été vice-président du Cameroun fédéral. C'est une candidature qui est prise très au sérieux par le camp d'en face, mais également par les anglophones.
C'est quelqu'un qui est une véritable personnalité sur le plan politique. Je vous rappelle qu'il a été bâtonnier. Il peut récolter également des voix même au niveau de ceux qui sont, par exemple, francophones.
Transfuge du Social Démocratique Front, principal parti de l'opposition, dirigé par un autre anglophone, John Frondi, la candidature de Maître Akero Muna suscite aussi des réactions auprès de ses anciens camarades d'hier. Honorable Joshua Oshi, vice-président du Social Democratic Front.
Est-ce que moi, à sa place, je l'aurais fait maintenant? Non. Est-ce que moi, à sa place, je l'aurais fait de cette façon-là? Encore une fois, non. Il a fait son choix, lui, que je respecte. Mais malheureusement, dans ce pays, on a une sorte d'envie d'avoir des candidats. Personne ne va plus loin sur les programmes, etc.
Dans la déclaration de son intention de candidature, le fils de l'ancien vice-président de la République fédérale du Cameroun s'est présenté comme le précurseur d'une nouvelle république, Maître Akero Muna.
Nous devons marcher vers une nouvelle république. Une nouvelle république qui trouve sa force dans la diversité. J'ai donc pris la décision de faire partie de la solution que notre pays réclame, à savoir la création de cette nouvelle république.
Âgé de 65 ans, sans formation politique jusqu'ici, Akero Muna s'est dit favorable au fédéralisme, une forme d'État qui divise actuellement l'opinion au Cameroun. Calcul ou erreur politique, professeur Eric Mathias Owonangini, enseignant à l'université de Yaoundé 2, analyse.
Il est évident que le positionnement de M. Akero Muna pourra satisfaire ceux qui, comme lui, sont favorables au fédéralisme, mais ne sera pas nécessairement accepté par ceux qui maintiennent l'option de l'État unitaire décentralisé. Ce positionnement sont déjà critiqués par les partisans anglophones du séparatisme.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, une certaine psychose s'est emparée de la capitale économique Abidjan, psychose liée aux attaques et autres agressions de tout genre. Des précisions avec notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les rues d'Abidjan, la question sécuritaire est sur toutes les lèvres. À Yopougon, par exemple, la plus grande commune de la capitale, les populations ne cachent pas leur inquiétude.
C'est Dieu qui nous protège tous les matins quand on sort de chez nous et nous protège pour qu'on puisse rentrer chez nous. Mais c'est tous les jours les agressions, c'est tous les jours. C'est pas que j'invente, je vis ça et je constate. Même au plateau, on agresse tous les jours. À la rivière, on agresse tous les jours. C'est pas à Yopougon qu'on va pas agresser.
Comment vous expliquez cela?
Une démission de l'État.
À Abobo, l'autre grande commune de la capitale ivoirienne, les populations sont également inquiètes de la dégradation du climat sécuritaire.
Pratiquement, on ne dort pas. On entend des coups de fusil, par-ci, par-là, on ne sait pas qui la nuit, qui fait quoi, mais vraiment, on n'est pas en sécurité à Abidjan. On a beaucoup peur à Abidjan, pas se promener comme ça. Et puis, il y a les microbes qui sont à Abobo, ça, ils agressent les gens. Soit quand ils partent au travail, les gens partent au travail, on les agresse. Ou bien les gens viennent du boulot, ils sont agressés au vide aussi, de tout le monde.
Il y a des opérations policières quand même qui sont menées.
Oui, il y a des opérations policières qui sont menées, que j'ai vues. J'ai vu des policiers, je les vois, même des militaires, je vois. Mais jusqu'à présent, on n'est pas tout à fait en sécurité en Côte d'Abidjan.
La mort le jeudi 5 octobre dernier du footballeur professionnel Georges Griffith est venue confirmer le climat d'insécurité qui prévaut à Abidjan. Georges Griffith a été tué par des braqueurs qui tentaient de lui voler son véhicule. Pour restaurer la quiétude au sein des populations, des opérations de grande envergure ont été lancées. La dernière en date, Épervier 3, mobilise depuis quelques jours près de 1500 policiers. Une opération qui a vu l'interpellation de plus de 5000 personnes, dont 248 déférées à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pour le porte-parole de la police, la situation s'est beaucoup améliorée. Bleu Charlemagne.
Les choses vont pour le mieux avec tout ce lot que vous avez vu. Cannabis saisi, fumoir détruit, 232, les couteaux saisis, les armes blanches saisies, les armes à feu saisies. Ça veut dire que le travail se fait. Bien entendu, les résultats, s'ils ne vont pas dans le sens de la satisfaction totale, mais je voulais vous rassurer que dans la durée, nous nous inscrirons à faire en sorte d'apaiser tous les secteurs chauds en termes de délinquance, qu'elle soit juvénile, qu'elle soit délinquance tout court.
10 grands trafiquants de drogue, dont 4 Nigérians et 3 Ivoiriens, ont été par ailleurs épinglés lors de l'opération policière en cours. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
À Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Ici à Washington, la Galerie nationale des arts a projeté hier un film documentaire sur les faits marquants de la courte présidence du capitaine Sankara. Samedi, des centaines de personnes, dont beaucoup de Burkinabés, se sont réunies pour une conférence débat autour des idées de Thomas Sankara. De nouveau, Eric Manirakiza.
Environ une dizaine d'orateurs se sont succédés pour vanter la personnalité et la vision de Thomas Sankara. Des applaudissements. Certains redécouvrent encore l'homme à travers le témoignage de Salomé Guérima, qui souligne la simplicité et la grandeur de Sankara. Se rappelant la date fatidique du 15 octobre 1987, un silence nostalgique s'installe dans la salle, un moment d'émotion.
It went that way.
Tout a mal tourné après son assassinat. J'étais là quand Sankara a été... Quand il a été tué. Je m'excuse.
Président du peuple, dit-on, écoutez le sens que Thomas Sankara a donné à son peuple en définissant sa politique économique dans une interview exclusive accordée à Idrissa Seydoudia de VOA Afrique.
Quand on dit peuple, bien entendu, on s'oppose à toutes ces minorités bourgeoises qui exploitent, qui oppriment. On s'oppose aussi à tous ces valets locaux qui font aujourd'hui le jeu des multinationales, de l'impérialisme. On s'oppose également à tout ce qui privilégie le profit et rien que le profit au détriment du peuple et de son bonheur.
30 ans après, Pauline Sankara, la sœur de Thomas Sankara.
Ah oui, hein, il nous manque toujours, mais c'est pas qu'il m'a laissé 5 francs ou je sais pas moi, 1 centime, mais il m'a laissé quand même une richesse qui nous a laissé la famille Sankara, c'est qu'on marche la tête haute. La dignité.
Le coup d'État de 1987 a porté au pouvoir son compagnon Blaise Compaoré. Des voix continuent de réclamer vérité et justice. Le vœu des parents de Thomas Sankara, d'après Salomé Guérima, qui considérait Sankara et Blaise comme leurs jumeaux.
And he replied to me.
Le père de Sankara m'a dit ceci. J'attends mon fils qui a tué son frère venir ici et présenter ses excuses à ma femme et à moi.
Pas question de se lasser, dit Jomé Ndongo Faye, coordinateur adjoint du mouvement fédéraliste panafricain.
Sa conviction, c'était libérer l'Afrique de la domination étrangère et unir l'Afrique. Un objectif qui devait se réaliser un jour ou l'autre. Totalement libérer l'Afrique de domination étrangère, montrer aux Africains qu'ils doivent être fiers d'eux-mêmes et qu'ils peuvent prendre en charge leur destinée.
La journée s'est donc terminée avec cet engagement d'accomplir le travail inachevé de Thomas Sankara. Dans une ambiance bon enfant, deux femmes exhibent une danse traditionnelle. Il y a vraiment de la fierté, comme l'exprimait un philosophe, l'espace, le temps et le silence. Eric Manirakiza, Washington, VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.